Radio Okapi.
Elle est là. Elle, c'est notre présentatrice vedette de cette édition, Jocelyne Moussao.
Bientôt, la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC. Le Premier ministre a échangé là-dessus hier avec la commission en charge de cette matière. Cette couverture permettra à la population d'avoir accès aux soins de santé de qualité sans se ruiner financièrement. Ouverture hier samedi du consulat de l'Inde au sud Kivu. Le consul général installé à Bukavu va superviser les deux provinces de Kivu, le Tanganyika et la Tchopo. Nathalie Kambala, coordonnatrice de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement, est notre invitée ce soir. Cette ONG pilote le projet Justice et Autonomisation de la Femme appuyé par le PNUD, le BCNUDH et l'UNFPA au Kasaï Central. Bonsoir à tous. Mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle en RDC, une délégation composée du conseiller spécial du chef de l'État en charge de ce secteur, la vice-ministre de la Santé et des délégués du Bureau international du travail a présenté hier samedi au Premier ministre le niveau d'avancement de ce programme. D'après Dr Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État, la couverture santé universelle doit permettre à la population congolaise d'avoir accès aux soins de santé de qualité et surtout sans se ruiner financièrement. À l'issue des échanges, Jean-Michel Samalukonde a pris l'engagement de convoquer dans un bref délai la première réunion du comité de pilotage du Conseil national de la couverture santé universelle et de lancer incessamment sa mise en œuvre. Écoutez le docteur Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle, dans cet extrait que nous propose Billy Van Lutumba.
L'opinion peut retenir qu'il y a un programme majeur du président de la République qui est mis en œuvre par le Premier ministre au travers de ses ministres sectoriels, qui est celui de la couverture santé universelle. Ce programme doit permettre à toute la population congolaise d'avoir accès aux soins de santé de qualité, mais surtout sans se ruiner financièrement. Et donc, pour la mise en œuvre de ce programme, il fallait un dialogue pour que nous tous nous ayons la même compréhension. Et c'est pour ça que nous sommes avec le ministère de la Santé. Et nous avons été accompagnés par le Bureau international du travail dans ce processus de dialogue parce qu'ils en ont l'habitude au niveau international. Mais avec beaucoup de responsabilités parce que c'est lui qui est en charge effectivement du programme du gouvernement et de sa mise en œuvre. Et donc il fallait qu'on passe par lui. De toutes les façons, c'était sur son appel, sur sa convocation pour pouvoir lancer ce processus de manière très pratique et de manière très opérationnelle. Et donc le Premier ministre a accueilli cette présentation de la synthèse de notre atelier avec beaucoup de satisfaction et nous a beaucoup encouragé à continuer. Il s'est engagé à convoquer très rapidement la première réunion du comité de pilotage du Conseil national de la couverture santé universelle et de lancer la mise en œuvre de la couverture santé universelle.
Rendons-nous au Nord Kivu où un enfant de 11 ans est mort, emporté par un éboulement de terre dans la localité de Masumo, territoire de Lubero. D'après Judith Kianzuliro, chef de localité, le drame s'est passé vendredi lorsque l'enfant était sur le chemin de retour du champ avec d'autres membres de sa famille. Outre ce cas, plusieurs maisons ont été détruites, rapporte la même source. Florida Kahambu nous en parle depuis Butembo.
L'enfant décédé était un élève qui profitait des vacances pour accompagner sa famille au champ. D'après Judith Kianzuliro, chef de localité de Masumo, située dans le groupement Luongo, en chefferie de Bassoa, dans les territoires de Lubero, les autres personnes qui étaient avec la victime ont échappé de justesse. Judith Kianzuliro indique cependant que plusieurs maisons d'habitation ont été détruites par des éboulements de terre, toujours sous la pluie du même vendredi. À cela s'ajoutent plusieurs tronçons routiers de la zone coupée et d'autres maisons menacées par des érosions, poursuit-elle. Elle lance ainsi un cri d'alarme envers le gouvernement et ses partenaires en vue de réparer les maisons détruites et réhabiliter les routes touchées. Rappelons qu'à Kamandilak, dans le sud du territoire de Lubero, plus de 400 autres familles demeurent sans abri suite aux inondations enregistrées depuis le début des fortes pluies qui s'abattent dans la région. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
À Beni, une soirée dite de la paix a été organisée hier samedi. Il a été question pour la cellule de communication et information de l'armée de réunir différentes composantes sociales de Beni pour échanger sur la participation de chacun dans la recherche de la paix dans la région et le soutien aux efforts de l'armée. La femme de Beni, première victime des atrocités commises par l'ennemi, a pris l'engagement d'apporter sa pierre pour une collaboration franche avec les services de l'ordre. Reportage Guylaine Cassassier.
Cette tribune vise à rassembler tous les acteurs sociaux de Béni pour échanger autour de la question sécuritaire dans le cadre de renforcer le mariage civilo-militaire. Désormais, elle se tiendra régulièrement, annonce faite par le capitaine Anthony Mualouchai de la cellule d'information et de la communication de l'armée, organisateur de cette activité.
Dans les jours à venir, nous allons commencer à organiser des séances de sensibilisation dans nos quartiers. C'est spécial aujourd'hui parce que nous allons au-delà de tout ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire impliquer d'autres couches.
De son côté, la représentante des associations féminines de Béni déclare être impliquée dans toutes les activités visant à faire régner la paix. Maître Toudi Diané appelle les femmes à se désolidariser de toute tentative de collaboration avec les semeurs de troubles.
Nous sommes derrière tout ce qui se passe, surtout à la recherche de la paix. C'est quelques femmes qui ont ignoré leur rôle d'éducatrice pour se ranger derrière les ennemis de la paix méritent essentiellement un suivi particulier d'une sensibilisation pour ce père engagé dans la lutte afin que la paix soit une réalité.
Il faut dire que l'occasion a été pour les organisateurs de projeter deux vidéos pour montrer aux participants différentes réalisations de l'armée et de la police dans la région de Béni. Béni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
À Kindu, ouverture hier samedi de la 4e session de formation des femmes. Selon Monseigneur Gabriel Hunda, évêque de l'église méthodiste unie de la région épiscopale du Congo-Est, cette formation qui vise à émanciper la femme entre dans le cadre de l'évangélisme social. Durant 6 mois, ces femmes vont bénéficier de plusieurs notions pouvant les aider à se prendre en charge. Monseigneur Gabriel Hunda revient sur le bien fondé de cette formation au micro de Florence Kiza.
Vous savez que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ça, c'est l'option que notre Église avait prise pour que la femme soit émancipée. Celles-là qui sont mariées sont en train d'aider leurs époux et les enfants sont bien scolarisés. C'est grâce à ce qu'elles reçoivent ici. Comme je l'ai toujours dit, au lieu de nous équiper, d'acheter les avions, tout ça, nous avons dit d'abord, nous devons aider cette femme qui souffre, qui est presque délaissé, marginalisé. Ça entre dans le cadre de l'évangélisme social. Parce que l'évangile en soi ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée des œuvres sociales, de la santé, de l'éducation, ainsi de suite. Les notions ici, on a l'agriculture, on a l'alphabétisation. On va apprendre comment préparer ne fût-ce qu'un cake. Elles vont aussi apprendre la couture. Nous formons la femme qui va aider sa famille, qui va aider le pays après les études.
À Kinshasa, remise de fournitures scolaires aux orphelins de quelques orphelinats de la capitale, hier samedi, par l'Association des femmes chinoises au Congo, AFCC. Ces fournitures scolaires ont également été remises aux partenaires de cette association, notamment la compagnie Théâtre des Intrigants. Cette cérémonie avait pour but d'aider les orphelins afin que chaque enfant aille à l'école. Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'amitié entre les deux peuples, le peuple chinois d'un côté et congolais de l'autre. Au sud Kivu, la République de l'Inde dispose désormais d'un consulat général installé dans la ville de Bukavu. Le consul général de l'Inde, qui a été installé à Bukavu hier samedi, supervise les deux provinces du Kivu, le Tanganyika et la Tchopo. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Inde en RDC, du gouverneur de province et des membres de la FEC Sud Kivu. Reportage, Emmanuel Elamejo Kabedi.
L'ouverture du consulat de l'Inde à Bukavu offre plusieurs opportunités aux ressortissants des deux pays amis, l'Inde et la RDC. Désormais, toutes les formalités jusqu'à l'obtention des visas de l'Inde se passent sur place à Bukavu. L'Inde offre des bourses d'études universitaires aux étudiants et enseignants congolais. Des officiels congolais bénéficieront de transports aller-retour pour une série de formations gratuites en Inde. Une caravane culturelle indienne aura lieu en RDC et à Bukavu d'ici 2023 pour célébrer les 70 ans d'indépendance de l'Inde. Aussi, ce pays, en partenariat avec le gouvernement congolais, a approuvé la construction de 6 centrales solaires en RDC, dont une au sud Kivu. Sur le plan des affaires et des soins médicaux, les membres de la FEC Sud Kivu se disent soulagés pour l'assouplissement des formalités et l'obtention des visas de l'Inde à partir de la ville de Bukavu. Monsieur Ketan Kotecha, consul général de l'Inde résident au sud Kivu, est un homme d'affaires bien connu à Bukavu, Il supervise le Nord Kivu, le Sud Kivu, la Tchopo et le Tanganyika. Emmanuel Elamijo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Clôture de la session spéciale en droit et contentieux électoral hier samedi à l'Athénée de la Gombe à Kinshasa. À cette occasion, l'École nationale de notariat, ENN, a procédé à la remise de certificats à plus de 90 récipiendaires ayant suivi cette formation axée sur 3 modules, à savoir le droit électoral, le contentieux électoral et le rôle et la responsabilité de la CENI au regard de la nouvelle loi organique. Jeff Ngoy a pris part à cette formation. Suivez son reportage.
Après des encouragements de l'Ordre national des experts électoraux qui invitent les récipiendaires à adhérer à l'Ordre, le représentant des récipiendaires et rapporteur du comité organisateur, Maître Pacifique Nkunzi, se penche sur un des chapitres électoraux appris.
De manière unanime, les experts électoraux ont fustigé du fait que la CENI, qui devrait intervenir en expert, mais devant les juridictions, elle se présente beaucoup plus comme une partie au procès électoral. Elle tend à disposer et à défendre une cause d'une partie contre une autre dans un dossier dont en principe il n'a pas intérêt.
Maître Marcel Mutombo, directeur de l'ENN, clôture ainsi la session en annonçant une entrée sur le droit notarial.
Nous vous informons que l'école pour les masters en droit notarial, nous ouvrons les portes pour la deuxième promotion le 30 octobre prochain. Alors je dois demander aux amis de vouloir venir massivement s'inscrire.
5 questions fondamentales tirées de cette formation. Qui doit voter? Pour qui voter? Pourquoi voter, comment voter, comment s'assurer que sa voix est prise en compte.
Le journaliste est d'abord le premier responsable de sa propre sécurité. Il doit veiller au strict respect du code d'éthique et des déontologies professionnelles dans l'exercice de son métier et ne donner que la bonne information. Ce message est de Joachim Mundia, président provincial de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, section du Kwilu. Il a dit hier samedi dans une interview après une séance de sensibilisation organisée au sein de la radio communautaire Bandoudou FM, RCB, à l'intention des journalistes de cette chaîne. C'est là dans le cadre de sa tournée dans chaque maison de presse œuvrant dans la ville de Bandoudou. Joachim Mundia est au micro de Irène Boma.
Nous sommes venus rencontrer le confrère pour leur faire part d'abord de cas de journalistes qui sont tués dans la partie est du pays. Nous avons profité de cette circonstance pour rappeler aux journalistes qu'ils sont d'abord responsables de leur propre sécurité. La sécurité commence par le travail qu'ils font et qu'ils doivent assumer et travailler en toute responsabilité. Le journaliste a devant lui le code éthique et de déontologie professionnel auquel il doit à tout moment se référer dans l'exercice de son travail. Nous avons bien insisté auprès des amis que le travail de journaliste ne se fait pas en solo, mais plutôt en le partageant avec les autres. C'est de cette manière-là que nous serons compris, nous aurons apporté un travail de qualité auprès de notre population qui attend de nous la bonne information. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous puissions dénoncer des faits que la société est en train de connaître, mais dénoncer cela conformément à la rigueur journalistique.
Actualité internationale.
Les femmes seront majoritaires dans le nouveau Parlement en Islande, une première en Europe, selon les résultats définitifs des élections législatives publiées ce dimanche. Sur les 63 sièges, 33 seront occupés par des femmes, soit 52,3% selon les projections basées sur les résultats finaux du scrutin organisé hier samedi. Selon des données compilées par la Banque mondiale, aucun pays d'Europe n'avait jamais franchi la barre symbolique des 50%, la Suède occupant jusqu'ici la première place avec 47% des élus femmes. Pénurie des chauffeurs routiers, panique dans les stations-service. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé hier samedi que des mesures seraient prises pour assouplir les règles d'immigration. 5000 visas vont être délivrés à des chauffeurs étrangers pendant 3 mois. Une réponse notamment à l'industrie agroalimentaire qui craint des pénuries pour Noël. Les représentants des commerçants avaient donné 10 jours au gouvernement pour réagir. Sinon, la saison des fêtes de fin d'année n'aura pas lieu comme prévu. Ce serait la deuxième année consécutive.
L'invité.
La coordonnatrice de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement est notre invitée ce soir. Cette ONG pilote le projet Justice et Autonomisation de la Femme appuyé par le PNUD, le BCNUDH et l'UNFPA au Kasaï Central. Évaluant les activités menées dans le cadre de la prévention contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre en province, Nathalie Kambala s'est réjouie de constater que la population a commencé à dénoncer régulièrement les cas relevés, abandonnant ainsi les arrangements à l'amiable. Elle s'entretient ici avec François Kadima.
Madame Nathalie Kambala, bonjour.
Bonjour.
L'ONG FMDK pilote un projet appelé JAD. Il est appuyé par trois partenaires, PNUD, UNFPA et BCNUDH. Vous avez mené les activités, c'est sur 3 ans. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait sur terrain dans le cadre des luttes contre les VBG et d'autres activités qu'on connaît comme les mentorats?
Ici, nous sommes dans le volet prévention qui est appuyé par UNFPA où nous sommes en train de réaliser quelques activités pour outiller les femmes leaders et les jeunes leaders à être autonomes, à être actrice de changement et à lutter farouchement contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Évidemment, l'année passée, nous avons commencé le programme de mentorat pour prendre les filles à coacher ainsi que les femmes leaders mentors qui vont commencer à transférer leurs connaissances auprès de filles et aussi préparer la relève. L'année passée, nous avons mentoré dans la ville de Kananga pratiquement 80 filles et aussi la ville de Chimbulu 40 filles. Et nous avons compris qu'à ces jours, les filles sont devenues des actrices de développement, des actrices des changements et elles sont capables de lutter farouchement contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Nous avons compris cette collaboration, cet engagement dans la lutte contre les violences sexuelles, surtout avec les femmes leaders. Et aujourd'hui, toujours dans le même projet du programme Justice, Autonomisation et Dignité de la Femme et Fille, survivantes de violences sexuelles et celles basées sur le genre, nous avons continué ce mécanisme mais avec une nouvelle équipe de 90 filles dans la ville de Kananga et 30 filles dans la ville de Chimbulu. L'objectif ici, se permettre à ces filles de devenir de filles leaders, qu'elles soient autonomes, qu'elles puissent défendre leurs droits, qu'elles puissent aussi revendiquer et jouir pleinement de leurs droits, ainsi que être actrices de changement aussi de développement. Mais nous avons compris que le travail, c'est vrai, n'est pas facile. Les enfants viennent de partout. Les femmes mentors n'ont pas toutes les connaissances, mais ne serait-ce qu'aider ces filles à être capables de défendre aujourd'hui et demain.
Vous apprenez à ces filles comment lutter contre les VBG. Vous avez quelle approche? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Dénoncer des cas?
Nous avons appris à ces filles la matière sur le leadership féminin, la matière sur le droit des femmes, la matière sur l'autonomisation, la matière sur la bonne gouvernance, ainsi que le programme de mentorat. L'idéal, c'est quoi? Lorsqu'elles seront leaders, lorsqu'elles seront capables de défendre leurs droits, lorsqu'elles seront capables d'être autonomes, je pense que ça sera facile de lutter contre les violences sexuelles et celles basées sur les gens. C'est juste cette approche-là, le coaching qu'elles sont en train de mettre sur terrain avec le mentor. C'est un programme de 5 mois et dans ce programme, les rencontres se font pratiquement 3 fois. Une fois collective, une mentor avec les mentorés collectivement, 2 fois individuelles. Le souci, c'est quoi? Le souci, c'est permettre à ces filles de défendre, puisque nous sommes dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Ça n'épargne personne. Nous vivons avec tout ce cas de VBG, mais l'idéal, c'était d'outiller ces filles pour qu'elles puissent être actrices des changements.
Alors, quelle évaluation faites-vous par rapport au VBG? C'est vrai que vous menez la lutte, mais aujourd'hui, vous sentez qu'il n'y a plus de cas de violence au Kasaï Central.
Oui, ce qui est vrai que les activités liées aux violences sexuelles aujourd'hui prouvent que la recrudescence de cas y est encore. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'organisations qui sont maintenant sur terrain avec les activités de prévention, sensibilisation, vulgarisation des tests et aussi communiquer à la population de dénoncer tout cas de violences sexuelles. Et la population a compris, la population commence à remonter les cas de VBG qui sont dans la communauté et c'est ainsi qu'aujourd'hui, si vous allez dans des centres de santé qui prennent en charge dans des hôpitaux, vous verrez qu'il y a eu une petite augmentation des cas de violences sexuelles. C'est parce que la communauté a compris qu'il ne faudra pas faire des arrangements à l'amiable. L'idéal était d'accompagner ces survivantes à des structures de prise en charge pour que ces survivantes puissent retourner dans leurs droits et jouir pleinement de leur dignité.
Que vous espérez que les choses vont changer avec ce que vous faites dans le cadre du projet JAD au Kasaï
intéressant.
Ça va changer s'il y a l'implication de toutes les parties prenantes, en commençant par notre l'État. L'État a un grand rôle à jouer et aussi sensibiliser, communiquer, vulgariser tous les tests et punir les auteurs de violences sexuelles. Je pense qu'on ne saura pas terminer les cas de VBG, mais on peut réduire sensiblement ces fléaux qui ternissent l'image de la femme et fille au Kasaï central.
Madame Nathalie Kambala, nous vous disons merci.
Merci François.
Ce journal prend fin. Il a été coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Ben Kabamba. Jean-Noël Mokondo, la mise en onde. Vous pouvez le réécouter sur www.radiokapi.net.